C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Ça cause,
ça complote,
ça parlote,
ça ragote,
ça balance
grave,
ça bavasse,
ça raconte,
ça babille,
ça se la raconte,
ça passe sa langue dans sa poche,
ça barre la veine,
ça jacasse.
Ça piaille,
ça blabla,
ça clame,
ça ouf son bec,
ça tête carmelle,
ça rigole,
ouh, yeah.
Ça va remplir le crachoir,
ça barjac,
ça divague,
ça déconne,
ça jacasse,
ça crie,
ça bagarre.
Voilà, longueur du truc. Vous êtes bien sur 895 de Joe, dans l'émission Sajakas, une émission jeunesse que vous retrouverez tous les samedis de 10h à 11h, animée par Radio et Rapotiel, Beaulieu School, l'Atelier Radio et Radio School. Et cette semaine, c'est l'équipe de Radio Chiel qui est en direct. Du coup, je vais juste vite fait présenter la radio, ce que c'est. C'est une web radio qui est dans une MJC et qui est animée du coup par des jeunes qui sont au lycée. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Anna Lali, Inès,
bonjour.
Eva, oui, salut, et Zef. Ouais, non, il faut que je me rappelle des prénoms. et voilà, du coup, on va faire de la radio ensemble, on va parler de l'école, et tout de suite, on va écouter un extrait qui s'appelle « Askip, ça a changé ma vie », réalisé avec la Gazef, et qui parle du lycée en période de Covid. Ça a été enregistré l'année dernière, et c'est disponible sur radiochiel.org.
Bah, moi déjà je suis en terminale, spécialité SVT et maths. Et du coup le masque, sur le plan social, ça change parce que il y a des profs, j'ai jamais vu leur visage. Je sais pas vraiment à quoi ils ressemblent. Certains élèves aussi, du coup quand ils l'enlèvent je suis choqué, enfin, j'ai pas l'habitude de voir leur visage. Et voilà, déjà sur le plan social, en cours on a du mal à se concentrer. Enfin, vu que c'était l'hiver ça allait, mais début d'année, quand il faisait encore chaud, c'était très désagréable. J'avais du mal à me concentrer pour ma part.
Moi aussi, je suis en terminale générale avec les spécialités maths et anglais. Du coup, à cause du Covid, il y a eu aussi forcément des cours en ligne qui se sont déroulés. Déjà, certains manquent de matériel chez eux pour pouvoir assister aux cours en ligne. Certains ne sont pas du tout habitués à utiliser des outils informatiques et du coup ont beaucoup de mal à suivre tout ça. Pour ma part, c'est totalement l'inverse parce que je suis déjà beaucoup habitué à utiliser l'ordinateur, tout ça. Je préfère utiliser ça qu'écrire à la main parce que je suis habitué à tout ça. Et ça me permet d'aller plus vite, ça me permet de suivre un peu mieux en cours parce que vu que j'arrive à prendre rapidement des notes, j'arrive aussi à y écouter et ça me permet d'être plus concentré, on va dire.
Du coup, moi, pour expliquer, je suis dans une filière qui s'appelle ASSP, c'est de l'accompagnement et d'aide à la personne. Et du coup, j'ai eu des cours en distanciel et c'était dur quand même parce que c'est une filière où il faut être présent pour vraiment suivre. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'arrive pas vraiment à suivre quand je suis chez moi. Mm-hmm. Parce que quand je suis à l'école, c'est dans l'environnement et même on a des travaux pratiques. Donc du coup, ça, c'est un peu supprimé.
Ah, je suis du même avis qu'Eliès. Dans ma filière aussi, il y a beaucoup de travaux pratiques. Et personnellement, je comprends mieux mon cours avec les travaux pratiques. Du coup, à la maison, j'ai beaucoup de mal. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas. La plupart, on est tous dans ce cas. On a du mal à suivre en cours parce que à la maison, il y a beaucoup de distractions. Il y a tout autour de nous. Il y a nos téléphones, la console, l'ordinateur, tout ça. Donc on peut être connecté sur le cours, mais faire autre chose à côté. Alors qu'en cours, on est très assidu. Du coup, la maison, j'ai pas très bien apprécié ce moment. Je préférais être en cours, au moins j'étais bien concentré. Même si je voulais pas l'être, on me forçait à l'être, quoi. Il y avait la prof qui surveillait.
Bah après, il y a aussi l'annulation du bac qui est rentrée en compte avec l'arrivée du Covid. Il y a le bac qui s'est mis en contrôle continu. Il n'y a plus d'épreuves. Enfin, dans le tronc commun, il n'y a plus d'épreuves. Il y a juste l'épreuve de philo qui est encore maintenue. Et même les spécialités n'y sont plus. On a seulement le grand oral à préparer, tout ça. Pour certains, ça leur arrange, car ils sont moins stressés et tout ça. Mais pour certains, c'est totalement l'inverse. Ils sont encore plus stressés, vu que maintenant, toutes les notes de l'année comptent pour le bac. Et du coup, ils sont encore plus stressés et ça peut entraîner des décrochages scolaires.
D'accord. Dans votre entourage, là, à l'école, il y en a eu, selon vous, des jeunes de vos filières qui ont décroché, qui ne sont pas revenus? Oui.
Non, c'est pas forcément qu'ils sont pas revenus, mais c'est que y a des gens de ma classe qui ils aiment pas trop l'école. Du coup, quand ils ont vu que c'était un contrôle continu, ils se sont dit ça sert vraiment à rien de continuer, quoi. Parce que déjà, de base, c'est des personnes qui aiment bien s'amuser en cours. Mais moi, je trouve que une fois qu'il y a eu ça, ça les a mis dans le flou total. Ils se sont dit pourquoi continuer, en fait. Et du coup, ils ont continué à faire justement.
Et ça représente beaucoup de personnes Vous êtes combien dans la classe, par exemple?
On est une classe de 26. Et sur une classe de 26, je dirais qu'il y en a bien 6 ou 7 qui font plus rien en cours, qui viennent même plus.
D'accord, ok.
Pendant ce confinement-là, qui a lieu en ce moment, il y a eu des gros problèmes avec le site du CNED. Du coup, beaucoup de cours ne fonctionnaient plus. Et du coup, ça revient sur le principe que certains profs n'arrivent pas à utiliser l'outil informatique. Et du coup, ils n'arrivent pas à trouver de solution pour changer tout ça. Et même si des élèves qui s'y connaissent un peu mieux, tout ça, leur proposent de partir sur tel ou tel site pour continuer à faire des travaux, ils n'acceptent pas. Et du coup, certains élèves sont retardés par rapport à d'autres. Pour mon cas, j'ai eu 2-3 cours où je n'ai pas pu assister parce que je sais pas pourquoi, s'il y avait un bug comme quoi j'arrivais pas à me connecter, tout ça. Et après, c'était pas pour tout le monde. Des fois, ça marchait pour moi et ça marchait pas pour d'autres. Des fois, ça marchait pour d'autres, ça marchait pas pour moi. Et du coup.
Donc, on vient d'écouter un petit extrait sur la pression scolaire, notamment pendant le Covid. Mais du coup, vous, comment est-ce que vous la gérez, cette pression scolaire au quotidien?
Moi, je dirais pas que j'ai une méthode pour gérer la pression scolaire. Enfin, je suis une personne stressée de base et ça.
Inès. Je confirme.
Je n'ai pas vraiment de méthode, à vrai dire. C'est peut-être plus le sport. Parce qu'en vrai, je fais de la danse et quand je vais à la danse, ça me défoule. Et quand je sors, je vais beaucoup mieux, en vrai. Ou je sors avec mes potes. Je vois du monde et ça va un peu mieux. Mais après, j'ai tendance à toujours penser aux devoirs. Enfin, je sais pas vous, mais...
C'est vrai que même si on s'amuse et qu'on pense à autre chose, c'est toujours un peu dans un coin de notre tête, quoi. Mais bon.
Enfin, quand tu t'amuses, tu sais que tu t'amuses et le lendemain, tu dois aller bosser ou des trucs comme ça. Et même si on relâche pendant un petit moment, il y a toujours cette pression scolaire.
Ouais, c'est vrai.
Même pas, parfois. Parce que, parfois, on est ensemble et on se dit « Merde, on doit bosser et tout. »
On bosse ensemble.
Parfois, on bosse ensemble aussi, ouais.
On bosse.
On bosse. Ça, c'est un grand mot.
On va pas trop se concentrer, mais t'inquiète. Ouais, voilà, quoi.
Moi aussi, c'est la danse. Mais depuis quelque temps, je fais du mal pour... Enfin, je fais un mal pour un bien. L'école, ça me stresse de fou, carrément. Et du coup, pour pas penser à l'école, je me rajoute d'autres trucs à faire. Comme ça, je pense à ça, mais pas... Enfin, tu vois, je sais pas si c'est bien, mais...
Ouais.
On fait tout pareil, je pense. Je pense qu'on se rajoute toutes des activités, des trucs à faire en plus pour se dire « Ouais, mais il n'y a pas que les cours, je fais d'autres projets, je fais d'autres trucs. » Sauf qu'après, on est fatigué parce qu'on en fait trop. Et je pense qu'on a toute cette technique hein, de se faire du mal pour un genre.
Ouais, c'est ça. Bah regarde, le soir on rentre, on est crevé après une journée de cours et parfois on va faire du sport, on a d'autres choses à faire. Et en plus de ça, t'as les devoirs. Donc au final, tu te couches à quelle heure? 23h30, minuit, voire plus.
Ouais,
parfois tu travailles à 4h du matin parce que t'as pas eu le temps de terminer.
Ah, Inès ça.
Ouais, mais parce que j'ai trop de devoirs. Moi, je suis quelqu'un. En plus, quand on n'est pas organisé, c'est la catastrophe après.
Oui, vraiment l'organisation.
Ouais, mais c'est vrai que. En fait, parce que moi, je sais que si je fais rien en dehors des cours, après, ça fait. Genre, il n'y a que les cours dans ma vie, quoi. Parce que quand t'as 7 heures de cours par jour et que des fois, t'as une heure. Enfin, ça dépend des gens, mais une heure ou deux heures de travail le soir. Enfin, tu fais que ça dans ta journée, en fait. Donc, si tu fais rien à côté, bah, c'est un peu pénible, quoi.
J'avoue. Bah, la radio, c'est un moyen de décompresser aussi. Enfin, ouais. Genre, c'est un moyen de se dire, on se retrouve entre potes et on relâche la pression ensemble.
Et on discute aussi. Bon, pas forcément que de radio, mais.
Ouais, non, voilà,
ça raconte un peu nos vies, quoi.
Ouais.
De cette grève qu'il y a eu récemment.
Alors, la grève du début du mois de janvier, oui, puis ensuite, il y en a eu une autre.
Il y en a eu plusieurs.
La semaine d'après. Alors, le contexte, c'est que depuis 2 ans, il y a eu une pandémie qui a eu de grosses conséquences sur le fonctionnement des établissements scolaires, en particulier des lycées. Notamment par le fait qu'il y a des tas de règles sanitaires à appliquer et que, notamment l'année dernière, beaucoup d'élèves venaient en demi-jauge ou pas tout le temps. Enfin, en clair, leur scolarité n'était pas régulière. Et cette année, les règles étaient un peu plus souples. Les élèves pouvaient venir un peu plus régulièrement. Par contre, il y a eu beaucoup plus de malades et donc beaucoup plus d'élèves absents. Mmh. Voilà, ça c'est le contexte. Et au mois de janvier, on a appris, donc nous les enseignants hein, et les directeurs d'établissement, la veille par la presse, quelles étaient les nouvelles règles qui allaient être appliquées pour la rentrée du lendemain. Ce qui, bien sûr, a semblé un peu cavalier à beaucoup de gens, c'est-à-dire que le ministre ne prenait même pas la peine de nous informer à l'avance, et en plus, de nous informer directement par mail, par exemple. Hein. Il fallait passer par la presse, en plus, je crois que c'était un article qu'il fallait acheter, un article payant. Donc. Voilà. Le symbole était, après 2 années de ce contexte, hein, le symbole était un petit peu dur. Voilà, donc je m'étends un peu, mais pour faire comprendre que ce contexte, c'était celui-là, en fait. Et donc, chez beaucoup de mes collègues qui pensaient que toutes les mesures sanitaires étaient justifiées parce qu'il y avait bien évidemment une pandémie, il fallait faire ce qu'on pouvait, on improvisait parce que c'était une situation tout à fait nouvelle. Voilà, chez beaucoup de mes collègues, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, de se dire nous sommes maltraités. En plus, il y a eu des réformes, celle du lycée, notamment de la réforme du bac. C'est le truc de trop, on se met en grève. Et bien sûr, dans les petites écoles, dans les petites classes, le protocole était particulièrement exigeant, mais ça, je connais un petit peu moins. Mmh. Mais les enfants devaient faire des tests en permanence, les parents devaient rédiger des attestations sur l'honneur. Et donc, ça a été particulièrement soutenu, cette grève dans les écoles, par les enseignants, les profs des écoles et les familles. Mmh. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a reculé en se disant « les familles votent ». Voilà.
Du coup, il y avait clairement un manque de communication et vous recevez peu d'informations, enfin du moins à l'avance, vous recevez rien.
Alors oui, là, en étant tout à fait objectif, je pense que vous pouvez demander à n'importe qui qui, depuis 2 ans, est dans cette histoire de l'éducation nationale, il n'y a même pas de communication du tout. Pendant le premier confinement, il n'y avait aucune communication.
Vous apprenez par les médias.
Oui, voilà, oui. Et le gouvernement communiquait avec nous par l'intermédiaire des médias et de la presse, ce qui est tout à fait inhabituel. Donc, comme si, en fait, il s'adressait davantage à des électeurs ou à la population plutôt qu'à ceux qui doivent directement appliquer des consignes, voilà. Donc ça, bien sûr, ça a été très mal perçu.
Est-ce que vous avez fait la grève, du coup ?
Alors, moi, j'avais des élèves de terminale. Et à cette époque, on avait encore le bac le 15 mars. Donc, évidemment, on ne pouvait pas se permettre de perdre 2 heures. Donc, moi, normalement, oui, j'aurais fait la grève, bien évidemment. Mais là, ce jour-là, je n'ai pas pu le faire. Donc, mais bon, voilà, j'étais totalement solidaire. Et si j'avais pu le faire dans d'autres circonstances, je l'aurais fait. Mais là, c'est des situations particulières. Je ne voulais pas léser les élèves qui étaient déjà bien souvent absents. Voilà. Mais sinon, oui, on va dire que je l'aurais fait.
Et en tant qu'enseignant au lycée, les mesures sanitaires, elles vous impactent comment ? Et que pensez-vous de ces réformes du bac ?
Alors, bon, alors ça fait deux questions. Ouais. Du coup, alors pour les mesures sanitaires, pour ce qui est des mesures les plus simples, qui est de porter les masques, alors c'est bien sûr vraiment pénible parce qu'on parle avec, en fait. Mmh. Et donc, on s'épuise en termes de fatigue, en fait. Hein. Bon, alors maintenant, on commence à s'y faire, mais ça, c'est...
tout un tas d'autres métiers qui ont ce problème-là. Donc voilà, le fait de se laver les mains, de respecter des distances, bon, c'est quasiment généralisé partout. Ça, honnêtement, c'est pas... tout le monde s'en passerait, hein. Mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est le fait que beaucoup d'élèves, globalement, depuis un an et demi, presque deux ans, sont quasiment déscolarisés. En fait, la pandémie, pour eux, c'est une déscolarisation, et le fait qu'ils fréquentent l'école de façon bien moins assidue. Et pour les élèves les plus fragiles, ça a été... comme si on avait enfoncé un nageur qui est dans l'eau, on l'enfonce la tête sous l'eau. Voilà. C'est surtout ça qui est compliqué. Ce n'est pas les mesures elles-mêmes, c'est le fait qu'on n'a pas créé les conditions pour faire en sorte que ce soit le moins déscolarisant possible pour les élèves. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, c'est ça le gros problème. Hein. Enfin, de mon point de vue. Hein. Après, le reste, bon, on met des masques et ça permet de solutionner. Ce n'est pas si grave que ça. Sauf que là, ça a permis de solutionner rien du tout. En fait, voilà, les inégalités ont été très aggravées entre élèves fragiles et bons élèves, qui globalement, les bons élèves, je n'ai pas vu leur niveau baisser. Par contre, ceux qui étaient déjà fragiles, ils se sont effondrés. Voilà. Et la deuxième partie de la question, c'était... Ah mince, j'ai oublié.
Que pensez-vous des réformes du bac?
Alors là, c'est... en fait, il y a eu plusieurs réformes successives. Globalement, on peut dire que ça a démarré avec la réforme de Parcoursup. Je ne sais pas si ça se peut pas. C'est le fait que, pour la première fois dans l'histoire, en tout cas récente de la France, après le bac, être pris dans l'enseignement supérieur, notamment dans les universités, ne cessait d'être un droit. Les établissements universitaires avaient le droit désormais de sélectionner les élèves, les bacheliers, les futurs étudiants. Donc par le biais d'un algorithme, qu'on a appelé la plateforme Parcoursup, mais en fait par le biais d'un algorithme, qui n'est pas rendu public. C'est-à-dire chaque université sélectionne ses futurs étudiants parmi les bacheliers de terminale selon des critères qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être les notes, mais ça peut être aussi l'établissement d'origine, ça peut être... Et bien évidemment, tout le monde a vu Parcoursup, ou beaucoup de gens ont vu Parcoursup assez vite, comme étant un moyen de créer la sélection de l'université, et donc de faire en sorte qu'un élève qui aurait le bac en terminale n'ait plus de droit en possibilité de faire des études. Et effectivement, depuis trois ans, des milliers d'élèves abandonnent, des milliers de bacheliers abandonnent les études. En fait, ils n'en font pas. Alors voilà, ça c'était la première étape. Ça a eu beaucoup de... Les gens ont eu beaucoup de mal à se rendre compte de ça, parce qu'ils ont pensé que Parcoursup était juste une plateforme numérique nouvelle qui remplaçait une autre plateforme qui s'appelait Admission Post-Bac, qui ne marchait pas très bien. En réalité, c'est vraiment un changement de philosophie, en fait. C'est-à-dire, l'université peut sélectionner. Ça, c'est la première partie. Un an ou deux après, donc quasiment dans la foulée, il y a eu la réforme du bac. En clair, pour résumer, d'une part, les filières disparaissent. Il n'y a plus une filière littéraire, scientifique ou une filière économique et sociale dans le bac général. Les élèves choisissent des disciplines en fin de seconde qui vont être décisives pour le choix d'orientation qu'ils vont faire en terminale et donc pour le métier futur. Et donc ça semble en apparence très sympa. On fait un choix, on laisse tomber les matières qui sont pénibles. Tout le monde ne peut que dire bah, c'est super, les élèves ont cessé de faire des choses qu'ils n'aiment pas, par exemple les maths. Tout le monde, sur le papier, c'est très beau, hein, c'est sûr. Dans les faits, en réalité, tout le monde, enfin pas mal de gens dont je faisais partie, se sont dit, mais ça, ce que ça va introduire, c'est que la plupart des familles et des élèves, en seconde, ne sont pas en état de savoir ce qui est important pour eux. Oui. Parce que, déjà que ce n'était pas le cas en terminale, deux ans avant, quand on a 14-15 ans, avoir une claire idée de choisir SVT, maths, arts plastiques ou littérature philo ou SES, bien évidemment que beaucoup de gens ont fait des choix à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils ont choisi sans choisir. Et aujourd'hui, la plupart des parents que je rencontre disent tous « Mais en fait, c'est pas si bien que ça, ce choix. » Parce qu'on nous demande de choisir sans avoir les éléments. Et du coup, ça semble être tout à fait raccord avec la réforme précédente de Parcoursup, dont je parlais tout à l'heure. On dirait bien que du coup, avec cette histoire de choisir ses spécialités, tout fonctionne comme si les universités ou les établissements supérieurs pouvaient désormais dire « Ah ben, nous ne prenons pas tel élève parce qu'il a fait les mauvais choix. » Et donc, ce n'est pas parce que nous sélectionnons, ce n'est pas parce que nous ne prenons pas tout le monde comme un service public, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux et à leur famille. Je ne sais pas si tu vois un peu ça. Et la dernière étape de ça, c'est les déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, à une conférence des dirigeants, des directeurs d'université il y a trois semaines, dans laquelle il a déclaré qu'il fallait quand même commencer à réfléchir sérieusement à rendre les universités payantes.
Oui.
Donc voilà, tout est installé. Des gens peuvent sélectionner les bacheliers, les futurs étudiants. Ceux-là peuvent faire des erreurs en faisant les mauvais choix. Et à la fin, eh ben, ceux qui peuvent payer sont pris. Et donc, tout le monde est prêt à accepter, du coup, cette situation. Donc, pour répondre à la question donc, initiale, il me semble que ce projet avait pour objectif de rendre les universités payantes, comme c'est le cas, par exemple, dans le monde anglo-saxon et dans pas mal d'endroits. Avec, bien évidemment, des conséquences politiques et sociales dans la population. Je pense pas que la plupart des gens soient prêts à ça. Et ouais. Surtout, et les moyens.
Et les grèves, les manifestations, pour vous, est-ce qu'elles peuvent faire avancer les choses? Est-ce qu'elles ont vraiment une utilité?
Alors ça, c'est intéressant comme question, parce que c'est une des questions qu'on évoque, par exemple, en sociologie, en terminale. Hein. Il y a un chapitre qui autrefois s'appelait « Les conflits du travail », qui aujourd'hui s'appelle « L'engagement politique », où on parle en gros de choses comme ça. Est-ce que ça paye? Est-ce que ça marche? Donc ça s'analyse scientifiquement. Hein. Alors le fait est que là, pour répondre très rapidement, pour là, ça a marché. C'est-à-dire manifestement, là, les grèves ont payé. Puisque le gouvernement a assez rapidement accepté les revendications, une partie des revendications. Il a reculé sur des choses qu'on ne lui demandait même pas. Par exemple, l'idée de repousser le bac, en fait, hein, ce n'était pas la demande principale des grèves. Donc oui, là, clairement, ça marche. Donc, en fait, je ferai une réponse qui est un peu la réponse quand on essaye de faire des sciences, c'est qu'on peut détester les grèves, ou on peut les aimer, mais là, peu importe. Ce qu'on voit, c'est que là, ça a marché. Et donc, du coup, ça ne peut qu'inciter les gens à en faire d'autres.
Oui.
Voilà. C'est pour ça que la plupart des gouvernements, généralement, ou la plupart des dirigeants d'entreprise qui sont confrontés à une grève, ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'ils se disent, si on le fait une fois, on montre que ça marche. Et les gens ont intérêt à recommencer. Ça va,
Oui. Okay.
Donc, qu'on soit d'accord ou pas, j'allais même dire, c'est même pas ça le problème avec les grèves. C'est que le fait est que là, ça marche. Alors, je précise juste que sur les 20 dernières années dans l'éducation nationale, c'est nouveau. Parce que globalement, depuis 20 ans, toutes les grèves échouaient. Et ce qui d'ailleurs avait beaucoup découragé la plupart des collègues. Donc là, le fait qu'il y ait eu un mouvement massif et que ça ait permis de gagner, forcément, ça peut considérer continuer. Alors, pour préciser, si ces grèves ont été victorieuses, c'est bien évidemment parce qu'il y a dans 2 mois une élection présidentielle. Et que l'électorat enseignant, c'est 8 à 900 000 électeurs, c'est 2% du corps électoral, dont 40% ont voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017, et que là, peut-être que le chiffre sera bien moins élevé. Et ça risque de peser dans la balance, une élection qui va jouer à pas grand-chose. Voilà, donc la réponse est clairement oui, on voit que ça marche.
Ok, bah super, merci. C'était la dernière question.
Et ben, merci à toi.
Alors, ceci était un extrait de l'interview de M. Guimenez, donc prof de SES à Honoré-Durfé. Donc, on a parlé dans cette interview des grèves dans l'éducation nationale, des mesures sanitaires, l'impact qu'il y a sur les profs et sur les élèves. Donc, on va avoir une petite discussion dessus. Moi, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez des dernières grèves qu'il y a eu récemment ? Parce que ça a eu un sacré impact quand même, et aussi des différentes mesures sanitaires qu'il y a dans les établissements, et comment vous, vous le vivez.
C'est important de faire des grèves, parce qu'il faut revendiquer nos droits, ou les droits des professeurs, etc. Et c'est toujours bien de voir qu'il y a du monde qui soutient un mouvement. Les dernières grèves, il y avait pas mal de monde dans la France qui était immobilisé pour ça. Et du coup, c'est important, ouais, voilà, de montrer qu'on est là et qu'on veut faire changer les choses. Après, est-ce que c'est totalement utile? Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, je pense que c'était important. Et le fait que ça soit des lycéens qui font des blocus dans les lycées ou des trucs comme ça, c'est tout à fait important. Enfin, voilà.
Tout à fait important, quoi.
Oui, bah c'est sûr que moi, enfin par rapport aux grèves, en fait, j'ai pas tout suivi non plus, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment, l'éducation nationale, elle est un peu, non, l'éducation tout court, elle est un peu délaissée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tellement de mesures en fait au lycée. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, on a juste on porte des masques, mais en soi, pas trop de différence. Enfin, depuis le début du Covid, hein, c'est soit on était avec les masques.
Le truc qui énerve un peu, qui a fait monter toutes ces révoltes et tout. Moi, ma mère, elle est directrice dans un établissement, et chaque fois elle rentrait du boulot, elle dit mais c'est pas possible, on nous prévient à la dernière minute.
Oui,
on nous dit ils sont obligés de tout organiser à la dernière minute, et puis qu'ils leur disent, parce que en ce moment, il y a grave du monde qui tombe, qui a le Covid. Du coup, il y a plein d'absences dans l'administration et c'est galère. Et tout le monde leur dit « Ouais, ouais, on vous envoie des profs remplaçants. » Et au final, en fait, ils leur envoient rien du tout. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait monter...
Puis même en vrai du côté des élèves, genre je sais que les élèves, il y a des jours on était 10 absents, même plus dans ma classe. Et en fait moi du coup j'ai eu le Covid, donc j'étais 6 absente pendant une semaine. Et en fait c'était super chiant à rattraper, parce qu'une semaine tu loupes genre tous tes cours en intégralité. Et ouais, c'est galère à rattraper. Et puis les profs ils peuvent pas tellement faire deux cours... vous voyez, il ne peut pas faire des cours en virtuel et des cours en présentiel à la fois. Mais pourtant, des fois, il y a ces limites moitié-moitié. Genre, il y a plein de personnes qui ont le Covid et toutes les autres qui sont en cours. Mais du coup, il y en a qui ne peuvent pas suivre, quoi. Du coup, c'est un peu chiant.
Ouais. En fait, je pense que c'est surtout compliqué du coup, pour les élèves en difficulté de base et avoir une certaine autonomie, surtout au moment où on était confinés, genre au tout début de la pandémie. Et après, il y a eu tout ce système dans certains lycées présentiel, distanciel. Et c'était compliqué parce que on était en retard sur le programme, après on a une perte de motivation. Je pense après ça dépend vraiment des élèves, mais je sais qu'il y en a plein, ils ont arrêté le lycée ou ils sèchent tout le temps, ils n'ont plus aucune motivation, ils disent qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est très compliqué. Et en plus, du coup, ça rajoute aussi une pression parce qu'on se dit, on est dans la merde, on est hyper en retard. Il y a les épreuves du bac qui arrivent, tu te dis que t'es pas prêt parce que t'as l'impression d'avoir rien foutu depuis des mois. En fait.
Ouais, parce que nous, par exemple, notre prof de français, notre prof de français, monsieur Durieux, c'est pas vrai. En fait, on est les plus en avance des premières, c'est-à-dire qu'on a fait 10 textes sur 16, puisque du coup, ils ont baissé le nombre des textes, mais on est les plus en avance, mais on est quand même en retard, quoi. Donc, au bout d'un moment, remettez-vous en question. Si avec monsieur Durieux, on est en retard, si avec monsieur Durieux, on est en retard, c'est que vraiment, il y a un problème, quoi. Enfin, il faut doser.
Non, mais le problème, c'est que je pense que c'est un manque d'organisation de la part de l'État ou des trucs comme ça qui, en fait, se ressent totalement sur les écoles parce que on n'est pas, malheureusement, la priorité de l'État en général, surtout avec la crise sanitaire. Donc, que ce soit pour les écoles primaires, maternelles, les collèges ou les lycées, il y a tout le temps un manque d'organisation. C'est un coup, dans les écoles primaires, on enlève le masque, on le remet, on enlève, on remet. Rien que pour les gosses, ça les déstabilise mentalement parlant. Genre, nous, déjà, ça nous déstabilise, ça a changé notre manière de vivre et de voir l'école, etc. Alors les enfants, moi j'imagine même pas. Enfin nous on a eu une génération où on était dans nos meilleures écoles maternelles, c'était la petite enfance, un truc comme ça. Eux ils voient tout le monde masqué, j'ai l'impression ils doivent paniquer et pas comprendre. Et c'est des trucs comme ça qui ont vraiment un impact sur les jeunes en fait. Et l'État prend pas ça assez en compte et en rigueur. Enfin ça c'est mon avis.
Oui c'est sûr que c'était plus compliqué pour les élèves, pour les profs dans les écoles primaires et maternelles, parce que, j'ai pas tout compris, mais eux, ils devaient vérifier, en fait, à l'entrée. Enfin, ils faisaient vraiment la police, en fait, et c'est pas leur rôle de toujours checker s'il y a pas les passes, s'il y a les passes sanitaires, le masque, tout ça. Enfin, eux, ils sont là pour faire cours, ils sont pas là non plus pour faire le je sais pas, la police, quoi.
Ouais, en fait, moi, je veux juste rajouter un petit truc. Enfin, par exemple, pour les sorties extrascolaires, qu'on fait avec l'école, il y a des élèves qui ne pouvaient pas faire la sortie parce qu'ils n'avaient pas le pass sanitaire.
Je trouve ça
un peu triste, quoi. Parce que du coup, ils étaient privés de certaines choses. Alors que, à la base, l'école, c'est pour l'égalité, quoi. Tout ça, égalité, à la base.
Ça a creusé les inégalités. Et il y a aussi eu un relâchement ces derniers temps dans les lycées, avec le Covid, etc. Tout le monde a tellement eu sa dose que maintenant il y a beaucoup de choses qui se laissent faire. Et c'est comme la semaine dernière quand je sais qu'à Honoré Durfé il y a eu plein de cas Covid, il y avait presque personne. Ça a créé une immunité collective en soi, donc
parce que maintenant il y a
moins de gens, maintenant là il y a tout le monde qui est de retour et il y a presque plus d'absents, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un relâchement et ça a vraiment eu une grosse pression sur tout le monde, que ce soit les professeurs, les personnels, etc.
Dans mon lycée il y a eu très, enfin en tout cas dans ma classe, dans mes cours, il y a eu très peu de profs absents. J'ai eu très peu de profs absents.
Tous les profs étaient là, mais c'était les élèves qui étaient pas là.
Du coup, moi, j'avais vraiment cours. Moi, ça a rien changé sur mon emploi du temps, sur mon cours, sur la quantité de cours que j'avais. Tout ça, je l'ai pas trop ressenti. J'étais pas trop déstabilisée. Il y a d'autres trucs, mais en tout cas, vraiment, j'avais mes cours, etc. Mais du coup, c'est à travers ma mère que j'ai vu que c'était vraiment le bordel, etc. Et je voulais dire quelque chose. Et j'ai oublié.
Bon, attends, vas-y, mais c'est sûr que c'est vrai que je pense que ça dépend des lycées, parce qu'en vrai, nous, dans notre lycée, on l'a tous eu, en fait, on s'est tous un peu refilés, quoi, mais...
Moi, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, j'étais qu'à contact de 20 personnes
en
2 semaines,
en fait, je comprenais pas. C'est ça, après, aussi, toutes ces histoires de cas contact, on devait se faire tester tout le temps,
tous les soirs, je me faisais tester, moi, j'en pouvais plus,
parce que c'était hyper rapide, en fait.
Et du coup, je suis retrouvée ce que je voulais dire. Moi, je me suis rendu compte que genre... moi aussi j'ai eu le Covid, du coup j'ai été absente 1 semaine et j'étais tellement contente, genre vraiment je croisais les doigts pour avoir le Covid, je m'en fous si ça a des conséquences à long terme, si bah voilà c'est quand même un virus que t'attrapes et que c'est pas top, je m'en foutais, je voulais vraiment genre louper des cours,
mais tu sais que
j'en avais vraiment trop marre, et me dire que, parce que je suis vraiment pas la seule d'avoir prié pour
avoir le Covid, j'ai des potes qui ont fait des câlins aux gens pour avoir
au lycée, et en fait des câlins à tout le monde,
et je sais pas trop comment l'expliquer, mais genre c'est enfin
quand même soulagée, hein, quand
très positif, hein.
En fait,
ouais, mais je veux dire de là ce qu'on en vient à penser à ça,
avoir le Covid pour rater les cours,
c'est vraiment que il passe quelque, enfin c'est peut-être notre génération, genre
on a marre,
les handicaps, mais genre
qu'on est flemmards, mais enfin je sais pas, moi je trouve ça, non mais t'as raison,
ça fait peur, mais c'est juste qu'en fait en fait on a tellement de, genre vraiment parfois je crois qu'il y en a, ils se rendent pas compte, mais on a une charge énorme, que ça soit déjà la pression sur notre avenir, parce que là du coup on est tout en première, et bon, Esteban
ouais, il a déjà un avenir tout tracé, lui. Animateur.
Que ça soit au niveau des SP aussi, parce que c'est aussi, on a une grosse charge dessus, parce que c'est nouveau, puis enfin bref, les activités extérieures.
Mais en fait, je pense qu'on s'est toutes pris une claque du fait qu'on est passé de la seconde, on n'avait rien, etc.
Une seconde tranquille, en plus.
Ouais, une seconde, moi j'ai vraiment kiffé ma seconde, on n'avait pas de voix.
On était en distanciel présentiel, nous.
C'est ça. Donc, et en fait, on n'a jamais eu un vrai rythme de seconde.
Et donc du coup, là, on arrive au lycée, on se voit avec des... En plus, nous, nos trois, enfin Zef, Eva et moi, on a des SP qui demandent énormément de connaissances, de travail et de trucs en plus. Donc du coup, ça nous rajoute des grosses dissertes, des gros trucs et tout. Et
bien on s'en sort
pas. Et là, je vois la tête d'Eva.
Non mais
comme toutes les SP,
mathématiques, parce que là on bosse. Non mais on voit la différence de.
Ça dépend. C'est plus rapide, mais c'est. Bref, on n'a pas parlé de genre pour les maths.
Non mais nous, on voit la différence dans le sens. Enfin, pour tout le monde, on voit la différence de. Voilà, on voit la différence de dose de travail.
Bon, maintenant on va écouter la musique de Demi Portion, La Bonne École. Donc d'ailleurs dédicace à lui parce qu'on l'a rencontré à cet été au Demi Festival. Et à d'ailleurs 7. Il sera présent au fil.
C'était à 7 qu'on l'a rencontré.
Non, mais du coup c'était cet été.
Oui, c'était
oui, à 7, mais elle n'a pas dit à 7.
Excuse-moi, c'est bon. du coup, il sera présent à un concert au fil en mai. Et d'ailleurs, bon, bah, la MJC sera présente.
De l'ancienne génération jusqu'à aujourd'hui.
Aux anciens qui représentent notre époque, à la jeunesse qui sort de la bonne école. Pas les mêmes codes à bord, j'ai la bonne vibe, d'accord. Travaille la rime, mon corps, ça remet tout le monde d'accord. Aux anciens qui représentent notre époque, à la jeunesse qui sort de la bonne école. Pas les mêmes codes à bord, j'ai la bonne vibe, d'accord. Travaille la rime, mon corps. Dégage-toi, j'ai pas le choix de garder les mêmes valeurs. Dépêche-toi, je m'active, car mon passé arrive à l'heure. Sur un beat, on a un cap, dans un rap, où clameur. Ma langue vivante est présente, j'y relève toute saveur. Un mic, c'est le décollage, les clips sont à mon image. Des haches dans mon petit collage, à ceux qui me donnent du courage. Un stylo, et je fais des dommages, et je fais des dommages. Je rentre dans la cabine comme si j'allais faire un cambriolage. Et ça fait hip-hop, hop, hop, ouais, hip-hop, hop, hop. J'ai grandi avec ces notes et l'envie de cramer l'anti-pop. Et ça fait hip-hop, hop, hop, hop. Laisse-moi trouver l'antidote. Fais-nous plaisir, lève la main. On s'améliore et c'est la même. Passionné depuis gamin. On réunira les b-boys autour d'un cercle en flamme. Trouver le réconfort, un peu comme les bras d'une femme. Ma voix se pose à l'aise. Un joint l'été à l'ouest. Un vrai thème, une voyelle. Un wawa la wallen. Y'a des fous et des malins. Des vagues et ses marins. Un ami en guise de bouée. En vrai, ça me sert à rien. On se donne au maximum. On taffe à chaque album. On ne mâche pas nos mots vu qu'on pense qu'on voyait la gomme. J'suis le coup de boule de Zidane. Pas le plug de Washington. Pareil que la maison est blanche. Mais ça vu les symptômes, on dégage toutes les barrières. Debout, t'es la warrior. Écoute, pas de marche arrière. On avance et alors on a le flow, c'est normal. On t'invitera dans le stade. Dédicace à nos anciens qui ont le doigt sur l'Amstrad. Yeah. Aux graffeurs et breakers. Aux rappeurs et DJ. Beatmaker, beatboxer. Oh yeah. Aux anciens qui représentent notre époque. Oh yeah. À la jeunesse qui sort de la bonne école.
pas les mêmes codes. Ah bon, j'ai la bonne vibe, d'accord. Travaille la rime, mon corps, ça remet tout le monde d'accord. Aux anciens qui représentent notre époque, à la jeunesse qui sort de la bonne école. Pas les mêmes codes, ah bon, j'ai la bonne vibe, d'accord. Travaille la rime, mon corps. Aux anciens qui représentent notre époque, à la jeunesse qui sort de la bonne école. Pas les mêmes codes, ah bon, j'ai la bonne vibe, d'accord. Travaille la rime, mon corps, ça remet tout le monde d'accord. Aux anciens qui représentent notre époque, à la jeunesse qui sort de la bonne école. Pas les mêmes codes, ah bon, j'ai la bonne vibe, d'accord. Travaille la rime, mon corps.
Ok, alors, bonjour Andréane.
Bonjour.
Tu es en quelle classe?
Je suis en première au lycée Monveil.
Ok. Et est-ce que dans ce lycée-là, tu te sens bien? Est-ce que tu te sens intégrée?
Eh bien, je me sens beaucoup mieux qu'au collège. Ouais. Et donc, oui, franchement, j'ai eu des bonnes rencontres et je suis très contente.
D'accord. Donc, t'as des amis, t'arrives à faire, oui. À te faire un réseau.
Oui, oui.
Il y a aussi, est-ce que les aides que le lycée t'apporte, est-ce que tu les vois, est-ce qu'ils sont présents, est-ce que ça t'aide?
Oui, j'ai trouvé que j'ai été bien entourée par rapport à ça et que ils ont été plutôt réactifs et j'ai pas eu besoin de demander plus que ce que j'aurais eu besoin.
D'accord. Et pourquoi au collège tu t'es sentie moins entourée, moins...
Parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec les autres élèves et que c'était pas du tout prévu pour que ce soit accessible. Et donc, du coup, c'était dur pour mettre en place ce dont j'avais besoin. Et...
D'accord. Et du coup, je me doute que le fait que tu t'entends bien au lycée, ça, est-ce que ça te permet de moins stresser pour les cours, les évals, gérer les devoirs, etc.?
Oui, c'est cool que je puisse en discuter quand je suis plus stressée ou autre.
Et t'es quand même stressée par l'école?
Un peu, ouais.
T'as une pression scolaire et tout?
Ouais.
Ouais. Et est-ce qu'elle est très très forte, cette pression, ou...
Non, enfin, je pense qu'on est tous un peu stressés. Donc rien de très important.
Ouais.
Mais... Ouais.
D'accord. Et on sait que, enfin, tu as des difficultés, tu es handicapée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Qu'est-ce qui t'arrive?
J'ai un handicap moteur de naissance. Donc je fatigue beaucoup plus vite et c'est pour ça que je suis en fauteuil. Après, j'ai pas du tout de problème d'apprentissage apprentissage.
D'accord.
Donc, du coup, c'est sûrement aussi pour ça que je me sens bien dans le cadre du lycée, parce que en soi, je suis comme tout le monde.
Ouais.
Juste que je bouge pas comme la plupart.
D'accord. Et, ok. Et est-ce que du fait de tes difficultés, du fait que, j'aime pas trop dire ça, mais que tu sois différente des autres, et ben, est-ce que ça t'a amené à avoir de l'harcèlement scolaire?
Ben, j'en ai eu au collège et en primaire, mais j'en ai jamais eu ici, enfin, ou juste des regards, ou après, enfin, c'est pas méchant, je pense que c'est juste
enfin, c'est de la curiosité, oui. Ouais, ok.
Ouais.
Et je t'ai jamais senti aussi mal qu'au collège.
Non.
D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, le lycée, ça te va beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de stress, même au niveau de ton handicap par rapport au collège.
Ouais.
C'est trop bien. Bah, tant mieux, écoute, franchement.
Merci.
Et ben, merci à toi.
Merci.
T'as rien d'autre à rajouter?
Non.
Non. Ok, cool. Et ben, merci à toi.
Merci.
Et ben voilà, c'était l'interview d'Andréane, une élève qui est dans la classe avec moi. Elle a été vraiment super sympa de faire l'interview avec moi, donc je la remercie si elle nous écoute. Voilà, et ben je vous propose que... On n'a rien entendu. Et ben je vous propose que qu'on parle un peu là-dessus et qu'on dérive sur... Enfin, qu'on s'attache à ça, mais qu'on dérive sur autre chose. J'ai pas réussi à reformuler... genre sous la forme d'une question, mais là du coup genre je vais juste vous donner mon impression et après on partira sur un petit débat. Donc en gros genre moi j'ai l'impression que l'école normalement elle est là pour égaliser tout le monde avec la laïcité. Il faut pas montrer que faut pas montrer sa vie privée à l'école, c'est un peu voilà, il faut pas montrer sa vie privée. On est là, on vient, on travaille, on rend des évals, etc. On rentre à la maison et on vit notre vie, etc. Mais on doit pas mélanger ces deux trucs là. Et moi j'ai l'impression que c'est vraiment dommage parce que par exemple dans nos notes, dans nos évals, les profs ils prennent pas en compte que par exemple on a eu des périodes très dures et qu'en fait ça peut peut-être se ressentir sur les évals, et c'est clair que ça se ressent sur les évals, sur nos comportements à l'école, sur notre participation en cours, etc. Et ça j'ai l'impression qu'ils prennent pas ça en compte, que nous en fait ils ont l'impression qu'en dehors on a une vie trop trop bien, surtout en ce moment où c'est un peu compliqué pour tout le monde psychologiquement. Ils ont l'impression, enfin non, ils ont pas l'impression, ils savent que ça va mal, mais c'est pas pris en compte, c'est pas dans les notes, dans les, enfin voilà, il y a pas ce truc là.
C'est vrai que c'est très peu, oui c'est clair, genre c'est très peu psychologique on va dire, enfin non c'est pas français, mais bref, enfin ils prennent, enfin pour eux on est un peu des machines en fait, c'est clairement ça, genre ouais. On peut toujours travailler, mais les gars on en peut plus en fait là, we need a break, genre mais c'est bon, enfin bref voilà. Mais du coup, oui, par rapport à l'intégration à l'école, on voulait
faire. Moi, je pense que par rapport aux personnes qui ont des difficultés, c'est juste un... En fait, pour moi, l'école, c'est un reflet de la société. Et donc, en fait, inconsciemment, ces personnes-là, elles sont toujours mises à l'écart. Et par exemple, tu vois, le fait que tu as fait une interview comme ça, moi, je trouve ça ultra intéressant et ça met aussi en valeur ces personnes-là et leur point de vue parce qu'ils sont pas assez entendus. Nous, on peut se faire entendre, on a des facilités pour... pour dire que bah, je sais pas, on en a marre des cours, etc.
Ouais, mais j'ai l'impression que, enfin, je me trompe peut-être, mais les problèmes psychologiques, c'est hyper tabou par rapport aux problèmes physiques.
Parce que ça se voit
pas.
Parce
que voilà, le physique, ça se voit, notamment Andrea, qui a dit qu'au lycée, elle a été super. Enfin, elle a pas eu besoin de demander, ils sont venus vers elle, ils lui ont mis tout en place pour qu'elle se sente bien, etc. Et parce que c'était en partie physique ce qu'elle avait et que ça se voyait, etc. Mais et ce qui est mental, ça se voit pas forcément. Mm-hmm.
Et c'est toujours
abstrait. C'est moins traité.
Je pense que c'est une vérité, ça, c'est toujours abstrait. Quand une personne elle est malade mentalement parlant, c'est toujours. En plus, non, mais c'est toujours plus mal vu aussi, j'ai l'impression. Il y a toujours un côté plus.
Moi, j'ai l'impression
qu'on juge, on croit pas en fait.
Genre, ouais, c'est pas. Moi, j'ai l'impression que les maladies mentales, genre. Elles sont moins prises au sérieux. Enfin, voilà quoi, c'est un petit truc, c'est pas grave. Alors que. physiquement, on a l'impression que...
Ouais, il y en a, ils vont dire c'est juste une petite déprime ou...
Ouais, ça c'est pour les fonctions.
Des phobies scolaires, par exemple, tu vois, ça peut vraiment dériver genre, à la paranoïa, etc. Enfin, c'est très, très puissant, quand même. Bah, moi, perso, pas forcément que pendant cette période, même quand j'étais en primaire, il y a les classes UNIS, ou je sais plus c'était quel nom avant, j'ai oublié. Moi, je sais que parfois, il y avait des élèves comme ça qui venaient dans nos cours. Et moi, je sais que les enseignants, ils étaient affreux avec eux. Hein. Parce ouais, c'était affreux. En fait, ils avaient pour la plupart un retard mental. Donc, ils avaient des grosses difficultés scolaires. Mais voilà, mais ils arrivaient quand même à apprendre. Ils étaient juste beaucoup plus lents. Et moi, je sais que, par exemple, l'ancien, une fois, on avait récité une poésie. Et pour certains, c'était compliqué d'apprendre par cœur. Et ils se faisaient engueuler, mais vraiment engueuler, parce qu'ils n'arrivaient pas à réciter leur poésie. Et parfois, ils se faisaient punir, etc. Mmh. Et je trouvais ça vraiment affreux. Et puis, parfois, certains de la classe les rejetaient, mais complètement. C'était en mode, non, je veux pas être à côté de lui, il est bizarre, ou des trucs comme ça.
C'est ce que...
Après, ouais. Mais après, j'ai l'impression que moi, c'est plus entre les élèves. Enfin, après, ça, c'est quand on grandit, mais j'ai l'impression qu'à l'école primaire, même un élève dyslexique, ça allait être le débile de la classe. Hein. Genre, vraiment, il y en a qui disaient que, oh, il est dyslexique, il est trop con.
Ouais, enfin,
c'était ça, quoi.
Alors dans l'interview, Andréane, elle disait qu'au collège, ça a été terrible.
Ouais,
les élèves étaient terribles avec elle, et au lycée, vraiment. Elle disait qu'elle avait des regards, mais c'était plus des regards de curiosité, parce que, mais il n'y avait jamais eu de
méchanceté,
etc. Et moi, j'ai vraiment été... Enfin, vraiment, elle, par exemple, elle a pas... Enfin, sans doute... Enfin, si, elle en a un peu, mais elle en a... c'est relativement peu la pression scolaire qu'elle a. Et moi, j'imaginais le contraire, parce que du fait de son handicap, j'ai cru qu'elle était... Tu vois, et pas du tout. Donc, en fait, vraiment, en fait, la situation qu'on vit, elle est complètement différente. Enfin, chacun, il y en a, ils sont au bout de leur vie, et pour d'autres, bah, tranquille, tu vois.
Attendez, j'ai envie de dire. Parce que si... tant mieux qu'elle va bien, en fait, parce que je sais que pour certains, c'est très compliqué.
Oui, voilà, c'est justement... Il y a des extrêmes, il y a des gens, ils vont très, très, très mal, puis il y a des gens, bah, ça va plutôt bien.
Ouais, mais c'est normal, on vit tous le lycée, enfin, on vit tous nos études d'une manière différente, parce qu'on est nous-mêmes différents, on a nos propres buts, nos propres objectifs. Hein. Quand t'as des personnes qui ont pas de but, savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est beaucoup plus compliqué qu'une personne qui a déjà tout tracé dans sa tête et qui sait où elle va, tu vois. Et donc, je pense que vu qu'on est différents, bah, forcément, on ressent les choses différemment. Après, moi aussi, j'étais comme toi, je pensais que les personnes qui avaient des difficultés physiques ou mentales, je pensais que pour moi, ils avaient grave une pression. Et donc, du coup, le fait de voir que pas du tout, que c'est l'inverse de nous, ça montre aussi qu'on n'a pas les mêmes problèmes et qu'on ne gère pas les mêmes manières. Pas les mêmes manières, quoi.
Ouais, t'inquiète.
Mais ouais. Après, c'est sûr qu'être différent, genre au lycée et tout, même si c'est pas un handicap physique ou mental, même être différent sur des trucs infimes, même sur ses idées ou sa manière de travailler, tout ça, moi je sais que, inconsciemment, hein, mais quand une personne est différente de nous, on a tendance à l'exclure, mais même si c'est pas méchant, tu vois, mais s'il y a des gens qui sont pas du tout pareils que nous, on va pas traîner avec eux, alors que c'est dommage, parce que c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas bien s'entendre, mais c'est vrai que quand il y a vraiment des extrêmes un peu, on n'a pas tendance à se mélanger, mais moi, je trouve ça bête quand même.
Et puis, je repense à un autre truc aussi. On a le temps ou pas? Ouais, on a le temps. qu'on devient hyper centré sur nous-mêmes. En gros, moi, j'ai été absente pendant une semaine parce que j'avais le Covid et tout, et j'ai demandé à plusieurs élèves de ma classe de m'envoyer les devoirs. Aucun ne m'a envoyé, mais je leur en voulais pas. Ils avaient tellement de travail, ils étaient là, ouais, attends, on a un devoir commun demain, faut que je révise, etc. Au lieu de nous aider, on est tous là. Mais moi, je fais pareil, vraiment. Quand on me demande, ouais, tu peux m'envoyer ça, je suis là, bah non, je fais d'abord mon travail, j'ai déjà plein de trucs à faire. Toi, je m'en fous, c'est d'abord moi. Et en fait, du coup, moi, j'ai galéré pour rattraper mes cours, mais
Moi, je trouve ça triste parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'être dans une société ultra individualiste et ça se voit pas qu'en cours, ça se voit vraiment à l'extérieur. Et pour moi, je pars du principe que quand des élèves sont absents, même les profs sont censés faire des efforts.
Même les profs, c'est ça.
Il y a des profs, ils en ont rien à foutre, tu vois.
Mais non, mais meuf, quand il y a Covid, les profs, ils peuvent pas. Il est devoir à 10 personnes différentes.
Mais ils le mettent sur Pronote.
Ils peuvent le mettre en ligne. Dans les tailles, il y en a d'autres qui ne le font pas. Tu vois. Et c'est comme les élèves. Je veux bien que. Par exemple, moi, des fois, on me demande des cours. Certes, je prends des fois du retard pour les envoyer parce que j'ai pas le temps. Mais j'essaye au moins de l'envoyer parce que quand elle a passé l'autre personne, elle aimerait aussi recevoir les cours.
Et moi, quand tu m'envoies les cours, j'ai du mal à te relire en plus parfois.
Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat.
Alors, la meuf fait l'écriture de copie avec son micro-ondes. Là, du coup, on voit rien du tout.
Peu importe, tu vois. Ça veut dire que je fais un effort quand même de t'envoyer.
Bah oui, c'est ça.
T'expliquer au moins ce qu'on a fait. Et les personnes gamines qui, même s'ils ont leurs devoirs, qui font pas ça, je trouve ça hyper triste. Et ça montre vraiment qu'on est en train d'être tous des individualistes.
Ouais, en mode chacun pour soi, en fait. Ouais.
Et bah, avant, il y avait une solidarité. Avant le Covid, avant plein de trucs. Et là, j'ai l'impression que pas du tout. Genre, vraiment, chacun dépend, dans notre délire.
Ça dépend, mais dans les écoles supérieures, par exemple, il y a zéro solidarité. Hein, vous attendez pas si vous avez fait des écoles supérieures.
Genre, les médecines, les gens, ils s'aident.
Bah ouais, mais c'est
des groupes de travail.
Oui, mais c'est des groupes de travail, mais c'est des petits groupes, tu vois. Ils vont pas aider. Le but, c'est quand même d'être dans les premiers à la fin, hein, c'est normal.
Oui, mais
forcément, ça dépend les universités ou quoi, mais c'est quand même le but premier, hein, les gars, c'est par exemple pour accéder au concours ou quoi, ouais, c'est la compétition.
Mais là, on n'est pas en compétition dans le lycée.
C'est bien pour ça que
bah, un truc.
Non, le problème, c'est que certes, il n'y a pas de compétition, mais il y a clairement une compétition. On se rend pas compte, mais c'est toujours celui qui a ouais, moi j'ai une meilleure note que toi, nanana, nanana,
même au lycée, même
dès la primaire, c'est comme ça. On nous met dans un système où en fait, limite, on doit écraser les uns les autres pour réussir, même inconsciemment.
C'est le monde, hein.
Ouais. Oui, mais même au lycée, même si c'est pas super concret, clairement ceux qui ont les meilleures notes, ça c'est tous les élèves de France, mais ceux qui ont les meilleures notes, ils vont accéder aux écoles qu'ils veulent, donc forcément qu'il y a un truc de compétition parce qu'on veut être meilleur que les autres.
Je crois que cette pression, en fait, Zef, moi je suis pas trop d'accord avec toi parce que moi cette pression, en fait, c'est nous qui se la mettons entre nous.
Ouais.
C'est pas les profs. Certes, moi je suis vraiment pas. Enfin, genre ce truc de mettre une note, ça veut rien dire parce que tu sais pas où t'as faux et où sont tes points forts et tes points faibles. Mais les profs, ils sont ils mettent des notes, etc. Mais à aucun moment. Ils vont essayer de dire faut que tu sois le meilleur pour écraser les.
Moi je pense que c'est les deux, tu vois, c'est entre les élèves et parfois inconsciemment c'est un peu le prof aussi. Je dis pas qu'il va dire aux élèves ouais, faut que tu sois meilleur que les autres.
Après il est dans le système, hein. Genre,
oui voilà c'est ça.
Il est obligé d'exécuter ce qu'on lui dit et puis.
Mais par exemple le nombre de fois, enfin moi je l'ai toujours fait, le nombre de fois où après une éval on est là oh, t'as eu combien, oh j'ai eu plus que toi, yes, même à zéro.
C'est entre nous,
on se jette sur les autres, on dit oh, t'as eu combien, ah merde, enfin tu vois ce truc là c'est entre nous que. Et après d'où ça vient je sais pas, mais en tout cas genre, c'est nous qui entretenons ce truc, tu vois.
Moi je suis plus d'accord avec
ça. Peut-être une forme de soulagement, non? Mais genre, de se soulager soi-même, de te dire que t'as une meilleure note qu'un
autre. Pas forcément, moi je suis d'accord avec Anali, je pense que cette pression là on l'a toujours eu en nous depuis qu'on est tout petit, parce qu'en fait on a vu des choses comme ça et c'est devenu quelque chose de normal pour nous. Comparer les notes avec les autres, c'est devenu un truc normal. Et je pense pas que c'est les professeurs qui mettent la pression. Les profs mettent une pression, mais par rapport à notre avenir en soi, pas par rapport au fait d'être le meilleur.
Ça, je suis d'accord.
Et genre ils mettent une pression, clairement je le dis, ils mettent une pression. Par rapport à notre orientation, notre avenir, etc.
Ouais.
Mais les notes en soi, eux, ils sont là, bah je te note, quoi, voilà. Et c'est nous entre nous, t'as eu ça, voilà. En gros c'est ça. Je pense qu'il y a pas la même pression qui est mise par rapport à qui.
Et d'ailleurs, moi je voulais rajouter un truc. Dans notre lycée, ils ont mis en place un marché des connaissances. C'est grave, enfin c'est grave bien. En gros, c'est un gros tableau qui est à l'entrée, qui est au foyer, et t'as des tableaux avec toutes les lundi, mardi, mercredi, jeudi, les horaires. Et en fait, ça fonctionne par binôme. T'as la personne qui aide et la personne qui est aidée. Et en fait, la personne qui aide, elle va s'inscrire sur une horaire et elle va dire sur quelle matière elle peut aider. Et en fait, par contre, tout se fait anonymement pour des histoires. Enfin voilà. Et du coup, l'aideur marque son truc, son horaire, sa disponibilité. Et en fait, l'aidé va, s'il a besoin d'aide en SVT, va s'inscrire à côté. Et c'est la vie scolaire qui met en lien ces deux élèves pour trouver un moment. Je trouve ça.
On a un peu la même chose à honorer, je crois. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais les profs, ils en parlent généralement en début d'année si on a des difficultés dans telle matière. Et du coup, je crois que tu t'inscris, enfin, t'en parles à ton prof principal et il se met en contact avec un des enseignants.
Entre élèves, donc tu vois,
je trouve en vrai parce que. Entre élèves, je trouve ça bien parce que du coup, ça permet aussi d'aider, s'aider les uns les autres. Puis peut-être qu'on est plus à l'aise aussi.
Ouais,
parce que parfois, face à un adulte, je sais pas, mais moi personnellement.
Pas dire que tu comprends rien.
Moi, pour les devoirs, par exemple, je préfère largement demander de l'aide à une pote ou à un pote qui, je sais, maîtrise cette matière que demander à mon père ou enfin un adulte en général.
Ouais, carrément. Ok. On fait la suite. Ok, du coup, je vais parler un peu de l'école aussi et du système scolaire, des emplois du temps français. Mais voilà, juste avant, je voulais revenir un peu sur un truc. Du coup, en France, il y a l'école primaire, qui dure 4 ans. Et puis après, il y a le collège qui dure 4 ans aussi avec le passage du brevet des collèges en 3e qui donne l'accès au lycée. Ensuite, il y a le lycée qui dure 3 ans. En première, jusqu'en 2021, il me semble, il y a les élèves de bac pro qui devaient passer, ou enfin, qui pouvaient passer un BEP, et il a été supprimé il y a peu. Et puis ensuite, en terminale, les élèves passent le bac. Bon, là, j'apprends rien à personne. Mais moi, je me focalise un peu plus sur le bac pro, qui, à première vue, est une chose formidable, car on pourrait croire que trouver un taf juste après l'obtention du diplôme, c'est une chose facile. Mais c'est pas du tout le cas, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui, enfin, de patrons qui recrutent avec le diplôme appelé le BTS. Et pour les personnes qui s'y connaissent pas trop, on va voir en gros ce que c'est le BTS à travers du coup une note vocale d'un étudiant qui est en BTS RPIP, donc c'est réalisation de produits imprimés et plurimédia, et donc qui est la suite logique de son bac pro.
Bon, voilà, je fais un témoignage sur qu'est-ce que le BTS par rapport au bac pro. Moi, je suis en bac pro imprimerie graphisme, spécialité graphisme, et en BTS, pardon. Et en BTS, on nous apprend beaucoup à... En fait, la différence entre le BTS et le bac pro, c'est surtout qu'il y a, beaucoup moins de pratique sur des machines. Par exemple, voilà, bac pro, on apprenait sur machine, puis maintenant BTS, c'est beaucoup de fab, pour ceux qui connaissent de la fabrication, c'est beaucoup de la com, en fait, c'est toutes nos connaissances qu'on essaie d'approfondir, alors que on essaie déjà d'acquérir les bases même des choses, et on essaie de nous faire aller plus loin dans ce qu'on devrait aller, ce qui est bien, mais ça nous sert, pour la plupart des gens, ça nous sert pas en entreprise d'approfondir tout ça. Pour la plupart, hein, pas pour tous, mais voilà. Aussi, le fait de faire 35 heures au lycée, ça, c'est assez dur, je dois l'avouer, mais par rapport à faire 35 heures au travail, c'est plus simple que de faire 35 heures au lycée. Alors qu'au lycée, on nous donne des devoirs, des choses à faire, des trucs. Alors qu'en général, au travail, on nous fait faire nos 35 heures. Et on nous donne le taf pendant les 35 heures. On ne doit pas travailler chez nous la plupart du temps, tout ça. Donc bon, voilà.
Du coup, voilà, c'était... Bon, je vais pas dire son nom parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème avec ce grand gaillard de 2 mètres. Mais du coup... Voilà, il est en BTS, et comme il a dit, du coup, il fait 35 heures au travail, et il fait aussi 35 heures au lycée pour pouvoir être payé, donc ça fait des grosses journées. Donc enchaîner des grosses journées comme ça pendant 2 semaines à l'école, bah, il paraît que c'est long et que c'est dur. Donc voilà. On va parler un peu des emplois du temps français. Et donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Maurice, qui a 15 ans, qui est en bac pro RPIP, donc encore une fois réalisation de produits imprimés et plurimédia. Et en gros, Maurice fait 8h midi, 14h, 18h tous les jours. Où j'en suis, putain. Sauf le mercredi où il finit à 11h. Et du coup, le lundi et le mercredi, il a matière professionnelle toute la journée, donc il se pose pas la question de savoir si ça va être une grosse journée ou pas, il le sait de toute manière. Le mardi, le jeudi et le vendredi, les matières plus générales telles que l'anglais, le sport, le français, la SVT de Wish, aussi appelée la PSE, je ne sais pas si vous connaissez ici. Donc c'est la prévention santé environnement ou environnementale, je ne sais pas exactement. Et en fait, c'est une matière dans laquelle il apprendra que faire tomber un marteau sur le pied de son copain, bah, ça fait mal. Avec une prof qui veut juste se barrer, car la PSE, c'est l'une des seules matières où pour être prof, il faut juste postuler sur le Pôle emploi. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'est rincé comme matière. Enfin bref, du coup il est 18h, le Momo il rentre chez lui, il a 20 minutes il a 20 minutes de bus et 20 minutes de marche, donc du coup au final il rentre à quasiment 19h, il se douche, il mange, il papote avec ses parents en regardant Blanquer dire que le Covid ne peut pas rentrer dans les lycées car il a pas son passe région. Ensuite le dîner il est fini, donc il va pouvoir aller taffer, sachant qu'il a 3 leçons et 2 DM. Et voilà, et c'est vachement relou, sachant qu'on juge un élève avec une note. Et donc voilà, il est 23h30 et Maurice a enfin fini son travail. Il est pas trop sûr de lui, mais bon, c'est pas grave. Au pire, il se prendrait une bâche parce que bon, c'est pas grave apparemment. Et ou alors il se relèvera à 4h du matin, comme l'a dit, je crois, Eva tout à l'heure. Ouais, c'est Inès qui se lève à 4h du bar pour étudier. Voilà, mais donc il se couche. Le lendemain, il se lève tôt, donc faut aller dormir tôt. Mais la leçon, elle passe en boucle dans sa tête. Du coup, l'insomnie, elle le hante légèrement. À savoir que pour un élève, même pour un adolescent, pour avoir un sommeil réparateur, il faut se coucher entre 22h et 23h30 et avoir entre 8h et 9h de sommeil. Ouah, c'est dur là. Pour Maurice, c'est pas le cas. Et comme 41,4% des lycéens en 2018 qui manquent cruellement de sommeil. Maintenant, voyons un emploi du temps américain, mais attention, parce que ça va faire genre ouais, le mec qui suce un peu les Américains, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai, faut pas dire ça à la radio. Ok. Il y a aussi en Espagne, il me semble, en Allemagne, en Angleterre, enfin en tout cas, il y a plein de pays où ils ont cet emploi du temps-là, en tout cas un genre d'emploi du temps similaire. Du coup, les élèves vont à l'école tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, bon, jusque-là c'est normal. Et les horaires sont variables selon les états, mais également d'une école à l'autre. On commence en règle générale la classe entre 8h et 9h et on la termine entre 14h et 15h. Ensuite, vers 15h30... Donc la journée, elle est officiellement terminée à l'école. Donc les élèves, soit ils rentrent chez eux avec les bus jaunes, là, comme on voit dans les films, soit ils restent sur le campus, ou en tout cas dans le lycée ou dans le collège, pour les activités extrascolaires. Il peut s'agir du coup d'étudier à la bibliothèque ou de travailler sur des projets de groupe, s'entraîner avec l'équipe sportive de l'école, ou encore se rendre... Je ne sais pas c'est quoi les mathlètes, mais enfin bref, voilà. Orchestre ou encore conseil des élèves de l'école, etc. Enfin bref, en gros, ils ont du temps pour étudier et pour les activités extrascolaires parce qu'ils finissent la journée à 15h. Alors qu'en France, la journée finit à 18h en règle générale et après, on n'a pas trop le temps. Il y a la fatigue, il y a plein de trucs qui font qu'on ne peut pas trop bien bosser. Mais du coup, voilà, il y a une chose qui marche. Enfin, il y a quand même des choses qui marchent mal aux USA qui fonctionnent plutôt bien en France. Tout à l'heure, mon très fidèle collaborateur Mathieu m'a rappelé que l'université était payante. Mais j'ai cru savoir que, tout à l'heure en écoutant l'interview, qu'en France, c'était aussi la question qui se posait de faire payer les universités. Donc du coup, voilà. Et puis aux États-Unis, il y a aussi beaucoup d'élèves qui abandonnent leurs études avant d'avoir leur diplôme, qui est le même diplôme que le bac, enfin qui est l'équivalent du bac. Mais ça, c'est un peu de la photo prof, je dirais. Et en France, j'aime beaucoup l'enseignement professionnel. Bien qu'il soit vivement critiqué et peu mis en avant, et j'en suis le premier à le critiquer. Et c'est une bonne chose parce que c'est une bonne chose parce que du coup on apprend un métier, alors que en général on n'apprend pas de métier, il me semble. Mais par contre, les emplois du temps, faut les revoir. Et voilà. Et ensuite, je vais donner des petits chiffres. Selon l'IREF, les écoles belges, néerlandaises et suisses ont globalement moins d'élèves en difficulté en particulier pour l'apprentissage de la lecture. En France, par exemple, c'est le plus haut taux de difficulté. On est à 18%. Alors que dans les autres... mais ça se fout de ma tête ici. Alors que dans les autres pays, on est environ à 13-14. Voilà, je vais abréger un peu. Et du coup, voilà.
On va passer à la musique là ou pas ?
Non, mais...
Ok, donc on va passer une musique de Medine qui s'appelle L'école de la vie. Et c'est un autre rappeur qui sera au fil le 30 avril. Et il y a une sortie au concert qui est également proposée par la MJC d'Étiol pour aller le voir.
Ceux qui ne brisent pas ton dos te rend plus fort. À plus forte raison si tu fournis l'effort. Remue la terre et l'épreuve se déterre. À l'école de la vie où tu mords la poussière. Vainqueur est le regard et le cœur à l'ouvrage. C'est pour les coléreux, ceux qui canalisent leur rage. Ceux qui redoutent la fuite, craint la cuite. Les battants et combattants qui ont soif de réussite. Écoute, on m'a dit que t'étais de la troisième. De ceux qui marquent des buts et qui démarrent en troisième. Qui déchire en seconde pour sa mère. Qui passe lentement des ténèbres à la lumière. Honore ta famille, tes frères et tes proches. Le bien est ta vertu et le pack est dans ta poche. Tes ennemis te rassurent de ta valeur. Ne perds pas de temps mais sois plutôt à l'heure. De la morale, du courage et de l'amour. De vraies valeurs et sois bon sans retour. C'est pour les sœurs qu'on le cœur sur la main. Qui se lèvent le matin et déjà pensent à demain. Vivre simple, y'a rien de plus classe. C'est simple comme bonjour en entrant dans la classe. 14-25, une lumière à nos pères. Pour nos sœurs, pour nos mères, pour nos grands et petits frères. Écoute, ceux qui ne tuent pas, rend plus fort. Ni l'argent, ni le peur, ni le bruit, ni l'odeur. Génération de l'effort. Du plus faible au plus fort, c'est la loi du plus fort.
bienfait du puissant, respect du naissant. Rassure ses parents qui se font du mauvais sang. Derrière sa balle, ses gants ou bien sa feuille. Promener sur le podium et la victoire est dans son œil. Elle est forte. Et puis à la source du véritable exemple dans la tête de la course. Impatient, tant plus le risque est grand. Écolier surclassé, ravageur, ouragan. Moi je voudrais être meilleur que des milliards. Mettre un coup de pied talentueux en plein dans la fourmilière. Péter les scores, mettre le boulevard au zéro. Et qu'on arrête de remplir les gares de chez Renault. C'est pour mes lions, mes tigres et mes panthères. Les dotés d'intelligence, le genou jamais à terre. 14-25, une lumière sur la terre. À l'encre de mes jeans pour mes grands et petits frères. Écoute, ceux qui ne tuent pas rend plus fort. Ni l'argent, ni le peur, ni le bruit, ni l'odeur. Génération de l'effort. Plus faible, plus fort, c'est la loi du plus fort. C'est le respect de nos pères. Le respect de nos terres, l'éclat de la lumière. C'est nos destins, nos prières. C'est l'école de la vie où tu mords la poussière. Ceux qui ne tuent pas rend plus fort. Ni l'argent, ni le peur, ni le bruit, ni l'odeur. Génération de l'effort. Plus faible, plus fort, c'est la loi du plus fort. C'est le respect de nos pères. Le respect de nos terres, l'éclat de la lumière. C'est nos destins, nos prières. C'est l'école de la vie où tu mords la poussière.
Donc maintenant, on va vous faire un petit top 3 chacun des raisons pour laquelle on aime bien aller au lycée. Alors pour ma part, donc en première position, c'est voir mes potes parce que bah c'est cool et que voilà. Et en deuxième position, il y a mes cours de spé parce que je trouve ça très intéressant et que le fait que j'ai pu choisir un peu ce que je voulais étudier cette année, bah je trouve ça cool. Donc voilà, mes cours de spé. Et en troisième, c'est la MDL parce que bah il y a une bonne ambiance, on rejoint tout le monde et bah voilà, c'est cool aussi. Et du coup, vas-y.
Bah moi je vais faire un truc, enfin ouais, mon top 1 c'est les mecs,
C'est
mes parents qui vont écouter ça, bref, ensuite top 2, mes amis etc, et top 3,
ouais. On passe après les mecs en fait,
oui.
Okay.
Et top 3, le self.
Ok, moi j'en ai trouvé que 2, les sorties entre midi et 2, c'est genre vraiment incroyable, et, et la prof d'SES, j'adore ma prof d'SES, elle est incroyable, voilà.
On part pas du tout sur le même top.
Bah moi j'en ai 3. La première c'est le contact, parce que maintenant j'avoue qu'en travaillant je vois moins de... Mais toi toujours tu te fous de moi. Maintenant quand je travaille je vois moins de gens de mon âge. Même si Mathieu est pas très vieux, mais du coup voilà, le contact entre ados c'est... ça manque un peu.
Ensuite, il est un peu vieux Mathieu quand même.
Je rigole. La deuxième c'est ouais, pouvoir être avec ses potes, pouvoir tisser des liens qui potentiellement... seront pour la vie, enfin pour ma part après. Et troisième, l'internat et tout ce que ça comporte, le self et tout. Enfin moi personnellement j'ai kiffé, donc avec Maurice.
Bah moi ouais, ce serait quand même les potes, parce que bah, c'est quand même important la vie sociale. Genre, je sais pas, enfin tu sais, tu les vois de 8h à 18h, tu parles avec eux, tu tisses des liens, enfin c'est important. Puis si t'es tout seul, bah c'est pas très drôle, si t'as juste tes cours et toi c'est beaucoup moins fun. Après je dirais les cours, enfin certains cours, peut-être pas tous mes cours de SP, mais certains cours, parce que enfin par exemple l'espagnol, moi je sais qu'au collège j'adorais ça, donc, peut-être un peu moins maintenant, mais je trouve qu'il y a certains cours c'est intéressant. Et la MDL, la maison des lycéens au lycée. Et je rajoute le self, parce que Inès a la raison, le self, en vrai, on a un bon self.
Moi, je veux juste préciser que mon top, c'était pour rigoler, hein. Mais voilà.
Oui, 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 arrête de mentir.
Les mecs, toujours les mecs.
Ouais. Papa, maman, c'est pas ce que vous croyez.
Ok, on a fait le tour de la table. Et ben, on enchaîne sans transition avec avec un court métrage que je réalise avec l'aide de la MJC et de plein d'autres gens et tout. Et il parle un peu des difficultés qu'on rencontre au lycée avec ses camarades et puis de la valeur qu'on s'attribue à nous. Et la valeur d'un billet. Du coup, j'ai écrit un petit truc, donc je vais vous le lire. On entend Zinef qui se fait vomir aux toilettes, puis on la voit accroupie, devant les toilettes, les yeux qui pleurent, la bouche toute mouillée. Elle se relève et tire la chasse d'eau avant de sortir des toilettes. Une fois sortie, elle se nettoie les mains, la bouche, elle se regarde dans la glace, elle pleure, soulève son t-shirt, rentre son ventre, sort son ventre, prend ses bourrelets entre ses doigts, puis elle rigole, toujours les yeux mouillés. Mais rapidement, elle sèche les yeux, les larmes, et sort des toilettes. Elle est dans les couloirs, sur le mur, il y a une affiche de sensibilisation contre le viol. Zineff la regarde, puis elle continue de marcher, elle retourne en cours. Zineff va mal, elle se cherche constamment, perdue entre les idées qu'elle se fait d'elle et celles des autres. Elle est grosse, ou lui fait-on croire qu'elle est grosse? Elle aime les garçons, ou lui dit-on qu'aimer une fille c'est pas normal? Elle est pauvre? Ouais, ça c'est vrai. Elle est détruite? Ouais, c'est vrai aussi. Elle s'est fait violer? Oui. Par choix? Non. Pourquoi? Pour l'argent, on n'a pas le choix. Mais c'est la faute, mais c'est de sa faute. Elle a bousillé 30 ans de la vie de ce gars, 30 ans qu'il va passer en prison. Et sa sœur, Chloé, eh ben, elle va lui faire vivre un enfer. Voilà, du coup, et... Et ben voilà, je crois que j'ai rien à rajouter, c'est bien comme ça.
Ok, ben nickel, et ben voilà, c'est déjà la fin de cette belle émission. Mais toujours dans le rire.
Bon, du coup, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. On retrouve ça Jacasse toutes les semaines. Vous pourrez retrouver les rappeurs dans un mois, donc sur le 89.5 de Radio Audio. Et nous, vous pouvez nous retrouver dans deux mois. Et en passant, vous pouvez écouter nos émissions sur radiotiel.org.
Salut.
Merci.
Salut.
Salut.
Bisous.